professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Quelle a été l'évolution des inégalités? Comment les mesure-t-on? Pourquoi la mobilité sociale peut-elle être une mesure dynamique des inégalités? Qu'est-ce que le Gini? Que s'est-il passé dans les années 1980? L'hypothèse de Kuznets, qui défend l'idée que l'inégalité croît puis décroît à mesure qu'un pays se développe, est-elle dépassée? Comme à son habitude, Philippe Aguillon, chercheur passionné, qui a enseigné à Oxford et à Harvard, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au Collège de France, soulève de nombreuses questions. Il nous inscrit ce matin dans une sorte d'enquête sur la relation entre croissance et inégalité. Dans sa leçon inaugurale, il posait déjà le constat suivant, et je le cite. Au cours des dernières décennies, les pays développés ont connu une augmentation accélérée des inégalités de revenus, en particulier en haut de l'échelle. Le top 1% a vu sa part dans le revenu total augmenter rapidement. Présentant sa théorie schumpeterienne de la croissance dans sa leçon inaugurale, il soulignait encore, et je le cite, « L'innovation a des vertus que les autres sources de hauts revenus n'ont pas nécessairement. Elle est le principal moteur de croissance. » S'il est vrai qu'elle profite à court terme à ceux qui ont généré ou permis l'innovation, dans le long terme, les rentes de l'innovation se dissipent à cause de l'imitation et de la destruction créatrice. Autrement dit, l'inégalité générée par l'innovation est de nature temporaire. Enfin, le lien entre innovation et destruction créatrice génère de la mobilité sociale. Elle permet à de nouveaux talents d'entrer sur le marché et d'évincer les firmes en place. Enfin, Philippe Aguillon notait, et il va développer ses points ce matin, l'innovation n'est pas corrélée avec des mesures plus larges d'inégalité des revenus, comme le coefficient Gini, qui mesure l'écart global par rapport à l'égalité parfaite entre l'ensemble des individus. Dès lors, qu'est-ce qui se cache derrière l'augmentation des inégalités en haut de l'échelle des revenus? Quelles stratégies peuvent être pensées face aux différentes formes d'inégalité? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Philippe Aguillon, Inégalité et croissance, le 27 octobre 2015.
Je vais mettre ça en trois parties. En gros, ça sera d'abord de vous parler de l'évolution des inégalités. D'abord, comment on la mesure et comment elle a évolué. La deuxième partie, si vous voulez, je vous parlerai d'explications possibles. D'accord ? On essaiera d'expliquer, de comprendre. Alors, on ne va pas tout expliquer, mais je vais vous donner des éléments d'explication pour essayer de comprendre l'évolution des inégalités. Et puis ensuite, je vais parler un peu plus normatif, c'est-à-dire vous êtes là et vous voulez avoir à la fois de la croissance et une maîtrise des inégalités. Qu'est-ce que vous faites? Quelle approche vous prenez? Alors, sur chacun des choses, évidemment, j'ai des points de vue, des idées dont je vais pousser certaines idées avec lesquelles peut-être vous serez d'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette direction que je vais aller. Alors, d'abord, mesurer les inégalités. Il y a différentes façons de mesurer l'inégalité. L'une, par exemple, c'est de dire, eh bien, c'est la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu qui est gagné. Si vous voulez, vous avez la population, vous voyez, si je mets la population dans un segment, eh bien, le revenu médian, c'est le revenu qui est gagné, si vous voulez, et je classe les gens par niveau de revenu de plus en plus grand, et je mets le médian, c'est-à-dire de fort qu'il y ait autant de gens à gauche qu'à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Le revenu moyen, c'est le revenu total, c'est le revenu, mettons que Y, c'est la quantité totale de PIB, divisé par la population. Ça, c'est le revenu moyen, ou le salaire moyen, je fais la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent, la moyenne et le médian. Par exemple, si vous avez une société où il y a peu de riches et beaucoup de pauvres, typiquement, le revenu médian va être très très bas, alors qu'il se peut que les riches soient très très riches et que le revenu moyen soit quand même assez élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une des mesures d'inégalité, c'est la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Vous voyez? Quand vous avez cette différence très grande, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Hein? Donc, la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Par exemple, si vous voulez, il y a des pays très inégalitaires, je sais pas, moi, le Brésil a pu être un pays comme, enfin, maintenant, je sais pas ce que vous êtes devenant, mais enfin, il y a une époque où on disait que c'était un des pays les plus inégalitaires, et typiquement, il y avait des niveaux de PIB par tête qui étaient raisonnables, c'était un pays de niveau de revenu moyen, mais le revenu médian était très 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 bas, il y avait une grande masse de gens pauvres, et donc, le revenu médian était très très faible. Donc, la différence entre le revenu moyen et le revenu médian était élevée. Donc, ça, c'est une première mesure. L'autre, c'est de dire, eh bien, je fais un ratio. Par exemple, je dis, il y a les 10% les plus, vous voyez, le 90e, je divise les revenus en ceux qui sont là, vous voyez, je divise là les 10% les qui gagnent le moins, et là, c'est le 90%, vous voyez que, et je regarde le ratio du revenu de ces gens-là, moyen sur le revenu de ces gens-là, vous voyez, et je dis ça, c'est une mesure d'inégalité également. On peut dire le revenu des 10% qui gagnent le plus par rapport au revenu des 10% qui gagnent le moins, vous voyez? Et ça, c'est une autre mesure d'inégalité, où on peut dire le revenu des 20% qui gagnent le plus sur le revenu des 20% qui gagnent le moins. Vous voyez, on a donc ça, c'est différentes mesures d'inégalité. On a une autre mesure, c'est le Gini. Alors, le Gini, c'est peut-être un mot que vous avez entendu parler. C'est le Gini, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous avez le revenu des gens qui sont dans le décile supérieur par rapport au revenu des gens dans le décile inférieur. Et vous voyez, par exemple, que, eh bien, aux États-Unis, ça a augmenté. En France, ça n'a pas augmenté, c'est intéressant. Alors maintenant, je n'ai pas les figures plus récentes, ça a peut-être un petit peu augmenté, mais en France, c'est resté essentiellement cette mesure-là, peut-être, en fait, diminuée de 70 à 80, elle est restée assez stable, elle a peut-être légèrement augmenté récemment, alors qu'aux États-Unis, elle a plus augmenté, et également en Royaume-Uni, elle a un peu plus augmenté, vous voyez. Par contre, en Suède, elle est restée totalement stable. Vous voyez, donc on a comme ça une première mesure d'inégalité, et on peut regarder comment ça évolue au cours du temps. Vous voyez, donc ça c'est une façon de mesurer. Alors vous avez le Gini. Alors le Gini, c'est un petit peu spécial. Vous vous demandez pour chaque niveau quelle est la fraction du revenu total touchée par les X% les plus pauvres. Vous voyez? Donc vous vous dites à chaque fois quelle est la fraction du revenu touchée par les X%. Alors par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, par exemple les 10%. Si par exemple les 10% les plus pauvres touchent 10%, vous dites, dans une société inégalitaire, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai les 10%, si à chaque fois vous touchez la quantité qui correspond à la fraction de la population, c'est qu'il y a l'égalité parfaite. Donc l'égalité parfaite, ça voudrait dire que, en fait, chaque catégorie touche, vous prenez les 10%, ils touchent 10%. Donc en fait, ils ne sont pas plus pauvres que les autres. Et donc, en fait, si vous voulez, vous construisez une courbe qui est, vous dire, voyez, les ménages, je les cumule, et vous voyez que là, vous avez les plus pauvres, donc, voyez, les 20% les plus pauvres, ils touchent moins que 20%, voyez, du revenu, voyez, et plus la courbe, elle est bombée, plus c'est inégal, la distribution des revenus. Par contre, si la courbe était confondue avec la droite que vous avez, qui est la droite d'égalité parfaite, vous voyez, c'est que, en fait, tout le monde gagnerait la même chose. Vous voyez, vous prendriez n'importe quelle fraction de la population, le nombre de gens correspond à la fraction qu'ils gagnent dans la population. Tandis que si vous avez une distribution très inégale, c'est-à-dire que je mets beaucoup de pauvres au début, et ils touchent une fraction, vous voyez, très faible, et après, les gens touchent de plus en plus. Vous voyez, vous arrivez à... Et en fait, l'inégalité est mesurée par la surface qu'il y a entre la droite d'égalité parfaite et cette courbe. C'est en fait l'écart à l'égalité parfaite. En gros, pour vous la faire courte, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite, la mesure Gini. Je vous la mentionne parce que des fois, vous entendrez le mot Gini, et il faut savoir qu'est-ce que c'est que le Gini. Le Gini, c'est un écart à l'égalité parfaite. Voilà, je sais que là, c'est le plus dur que j'aurais fait aujourd'hui, hein. C'est le plus difficile, hein. Donc, vous voyez, voyez, là, ici, vraiment, si par exemple, j'étais avec une courbe très bombée là, ça veut dire que les 20% les plus pauvres toucheraient presque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que je dis, c'est les 20% les plus pauvres, quel pourcentage du revenu total ils ont? C'est ça que je représente. Vous voyez? Et évidemment, si les 20 les plus pauvres ont un très très petit pourcentage, c'est que je suis très inégalitaire. Si les 20% les plus pauvres touchent 20% du revenu total, c'est que je suis à l'égalité parfaite. Vous comprenez? Voilà. Hein? Donc c'est ce que j'appelle le Gini. Hein? C'est une mesure d'inégalité globale. Et c'est ça que ça vous dit. Donc voilà. Donc la mesure de Gini correspond à la surface entre la courbe, la fameuse courbe Bombé, on l'appelle courbe de Lorentz, et la ligne d'égalité parfaite. Un Gini égal à 1, ça correspond à l'inégalité maximum. Un Gini égal à 0 correspond à l'égalité parfaite. Donc plus le Gini est grand, plus ça veut dire que vous avez de l'inégalité. D'accord? Et c'est cette fameuse, puisque évidemment, si j'ai une surface 0 entre, si par exemple l'égalité parfaite, c'est que la courbe de Lorentz, elle est confondue avec la ligne d'égalité parfaite. À ce moment-là, le Gini vaut 0. Mais évidemment, le maximum, ça serait quand j'ai une courbe de Lorentz qui est pratiquement comme ça. Et juste au dernier, juste au 100, ça grimpe. Vous voyez, alors là, c'est vraiment le plus inégalitaire que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, l'hypothèse de Kuznets, c'est en fait la chose suivante. Kuznets, qu'est-ce qu'il a fait? Kuznets, il a dit, j'aimerais comprendre comment, avec le développement, évoluent les inégalités. Et donc, Kuznets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, évidemment, je ne connais pas l'histoire depuis la fin des temps, parce que moi, je ne connais l'inégalité qu'aujourd'hui. Kuznets vivait dans le milieu des années 50. Et donc, monsieur Kuznets, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, voilà, il prend un pays. D'abord, il sait que chaque pays correspond à un niveau de PIB par tête, d'accord? Donc, PIB par tête. Donc, je sais que chaque pays, il y a un niveau de PIB par tête qui représente, en gros, le niveau de développement du pays, d'accord? Et il sait qu'également, chaque pays, je peux observer un Gini. Je calcule le Gini parce que je calcule la distribution des revenus. Et qu'est-ce que fait Kuznets? Il a utilisé des données fiscales. C'est le premier qui a fait ça. C'est le premier qui a compris qu'avec les données fiscales, on pouvait regarder la distribution des revenus. Alors, Piketty, Saez, et on fait évidemment beaucoup mieux que Kuznets puisqu'ils ont des données beaucoup plus riches et maintenant il y a l'informatique. Donc, si vous voulez, ils ont continué, en fait, ce qu'avait fait Kuznets. Et c'est Kuznets qui est le premier qui a dit, moi, je peux utiliser les données fiscales pour mesurer le fameux Gini ou d'autres mesures d'inégalité, voyez. Et donc n'importe quel pays, je peux le représenter par un niveau de PIB par tête et par un niveau de Gini. Donc à chaque pays, c'est un point, un point, un point. Et j'essaie de voir quelle courbe est le plus près de tous ces points. Et ce qu'il trouve, c'est que c'est une courbe en U inversée. Voilà. Donc il essaye de mettre une courbe proche des points qui minimise la distance aux différents points qu'il a. Et ce qu'il trouve, c'est une courbe en U inversée. Alors, à ce moment-là, Kuznets essaie de dire, tiens, c'est intéressant, est-ce que je peux mettre une histoire? Alors, évidemment, il a pris une photo en 1950. Mais il a essayé de dire que les pays pas développés aujourd'hui, c'est nos pays à nous avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a essayé d'inférer d'une photographie quelque chose de temporel. Parce qu'il a essayé d'expliquer que c'est nous avant, quelque part. Ce qui est, oui, est vrai et faux. Et donc, il a essayé de raconter une histoire pour dire une histoire de dire comment on était avant et comment on s'est développé. Et en gros, son histoire, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, eh bien, à mesure, quand un pays se développe au début, l'inégalité augmente, mais après, l'inégalité diminue. C'est vrai que, historiquement, quand vous regardez l'inégalité aux États-Unis ou dans la plupart des pays développés, avec la révolution industrielle, elle a beaucoup augmenté. Et puis après, de 1920 à 1970, l'inégalité dans les pays développés, elle a été réduite. D'accord? Donc lui, il était en 55, lui avait le sentiment que, eh bien, l'inégalité augmentait dans les périodes de développement initial et ensuite l'inégalité diminuait. Alors il a essayé de se trouver une histoire pour ça. Et l'histoire qu'il a trouvée, c'est la transition d'une économie rurale à une économie industrielle. Alors je vais vous la raconter d'une manière très simple. Supposons qu'on est tous dans les champs à cultiver, d'accord? On est au salaire de subsistance, d'accord? Économie agricole, pas génial, bon, on survit, mais tout juste, hein, d'accord? Et soudain, il y a l'industrialisation qui arrive. Alors, quelques-uns d'entre nous ont la possibilité de trouver un emploi industriel ou de gagner de l'argent à la ville. Et donc, ils vont... Évidemment, à ce moment-là, l'inégalité augmente parce que eux, il y en a certains qui ont la chance d'y aller, d'autres pas, d'accord? Imaginez que sinon on est tous une armée de réserve dans les champs, d'accord? Quelques-uns ont la possibilité d'aller dans la ville. Donc ils gagnent plus. Alors après, à mesure que l'industrialisation se produit, de plus en plus de gens vont dans la ville. Mais du coup, ça produit une certaine congestion dans la ville. Par contre, plus de gens quittent la campagne, plus le revenu marginal d'un individu dans la campagne devient important. Vous voyez, c'est-à-dire que moins on est nombreux à la campagne, plus ce qu'apporte un individu au revenu est important. Donc si vous voulez, au début... partant d'une égalité parfaite entre nous tous qui sommes à la campagne, le fait qu'il y ait certains qui aient la possibilité d'aller dans la ville et pas d'autres, ça augmente l'inégalité. Mais à mesure que beaucoup de gens vont à la ville, l'inégalité va finir par retomber. Parce qu'en fait, il y a des rendements décroissants à la production dans la ville, mais les rendements décroissants font aussi qu'à mesure que les gens quittent la campagne, le salaire de chacun à la campagne va augmenter. Voilà. C'était en gros l'idée de Kuznets, voyez. C'était en fait la transition d'une économie rurale à une économie urbaine. Et c'est comme ça qu'il essayait de rationaliser. D'accord? Et donc, la vision qu'avaient les gens, si on demandait aux gens quel est l'effet de la croissance sur l'inégalité, eh bien, les gens disaient la courbe de Kuznets. C'est-à-dire, finalement, c'est pas très grave que les inégalités augmentent au début, parce qu'elles finissent par diminuer. Vous voyez, par exemple, peut-être la Corée du Sud, les inégalités ont beaucoup augmenté dans les années 60, mais après, vous allez voir, les inégalités vont retomber. Donc, il y avait une espèce de vision vertueuse du capitalisme, en gros. C'est de dire, non, on se développe, l'inégalité augmente, certes, aussi parce qu'il y a des coûts fixes, dire, voilà, il y a des... Et puis, après, l'inégalité, eh bien, réduit. Il y a de la théorie de Kuznets, pourquoi l'inégalité se réduit. D'autres diront, il y a la syndicalisation qui fait que, évidemment, les mouvements ouvriers s'organisent pour obtenir des, vous voyez, davantage et pour avoir une répartition plus juste du gâteau. Il y a d'autres qui disent, oui, il y a aussi le développement des marchés financiers qui fait que tout le monde peut devenir actionnaire. Et donc ça aussi, ça permet de partager davantage. Il y a différentes théories qui ont été autour de la courbe de Kuznets. Mais c'est, disons, la religion, c'était la courbe de Kuznets, d'accord? Malheureusement, à partir des années 70, ça ne marche plus. Alors vous voyez, ça c'était l'évolution du coefficient Gini en Angleterre et en Pays de Galles. Moi je trouve que c'est beau, England and Wales. Hein. Voilà, vous voyez, le Gini augmente énormément en Angleterre et Pays de Galles entre 1820 et 1880, et puis ça retombe après, entre 1880 et 1920, ça reste à peu près égal là. Si je continuais, la courbe serait assez plate, et c'est remonté récemment. Mais vous voyez, si on regardait entre 1820 et 1920, on voit grosso modo quelque chose, et là c'est vraiment temporel, on voit vraiment une espèce de courbe en U inversée, vous voyez, ça monte et ça descend. Bon, alors, eh bien, malheureusement, ça ne marche pas très bien longtemps. Parce que si on regarde le coefficient Gini aux États-Unis, on voit qu'à partir des années 75, vous voyez, alors Kuznets était, je ne sais plus s'il était encore vivant, Kuznets, peut-être qu'il n'a pas vu ça, je ne sais plus, j'ai honte, je devrais savoir à quel âge est décédé Kuznets. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est que à la fois la mesure de Gini ou bien le ratio des 10% les plus riches ou sur les 10% les plus pauvres en termes de salaire se met à augmenter très fortement, en fait, à partir la fin des années 70, surtout les années 80 et 2000. Et donc ça, du coup, on dit, la théorie de Kuznets, c'est plus valable. Parce que Kuznets, il vous dit que ça monte et ça descend. Mais oui, mais c'est remonté. Alors, ça va pas, sa théorie. Hein? Voilà. Donc ça, c'est donc là, il y a eu, tout d'un coup, les gens se sont dit, mais ça, Kuznets, ça marche pas, quoi. Hein? C'est, en gros, si vous voulez, on voit aussi, en termes d'éducation, par exemple, on voit que le salaire réel, hein, donc c'est le salaire réel horaire, aux États-Unis, entre 80 et 2010, en 1980 et 2010, on voit qu'en fait, pour les gens pas qualifiés, vous voyez, qui ont pas terminé le secondaire ou qui ont juste terminé le secondaire. Là, c'est ceux qui ont le secondaire plus un premier cycle. Et là, c'est plus des gens qui ont c'est des gens qui ont passé la licence ou maîtrise. Et ça, c'est des gens qui ont le doctorat. Mais vous voyez que c'est très discriminant. Les hommes pas qualifiés, eh bien, ont vu leur salaire horaire baisser depuis les années 80, alors que les gens très qualifiés ont vu leur salaire monter. Donc on voit que c'est une inégalité de salaire entre gens plus éduqués et moins éduqués. Vous voyez ? Donc déjà, ça, c'est intéressant comme phénomène. Hein. Voilà, donc deuxième chose. Hein. Alors ça, c'est en Grande-Bretagne, c'est l'équivalent de ce que j'avais là pour les États-Unis. Mais la Grande-Bretagne, vous savez, c'est toujours à peu près comme les États-Unis. Hein. Donc c'est ce qui, chez nous, ressemble, près de chez nous, ressemble plus aux États-Unis. Et à nouveau, vous voyez que à partir des années 80 jusqu'à 2010, ça a augmenté très fortement. Hein, ça augmente un petit peu moins fortement maintenant. Mais vous voyez, surtout dans les années 80-90, alors là, ça a été vraiment l'augmentation très rapide des inégalités. Vous voyez ? Et en haut de la distribution, c'est vrai, là, je regardais le Gini et je regardais ça, c'est le ratio 90-10. Tout à l'heure, je regardais le ratio 90-10 et le Gini. Mais maintenant, je peux regarder, ça, c'est la fraction du top 1%. c'est-à-dire c'est la fraction du revenu qui est alors pas par le top 10%, mais par le top 1%. Vous regardez les 1% qui gagnent le plus et vous voulez savoir quelle fraction du revenu ça correspond. C'est une autre mesure d'inégalité. Et vous voyez qu'également, et ça c'est Piketty, Saez, Atkinson, donc de tous de très très, voilà, très bons collègues, eh bien vous voyez que vous avez cette courbe en U, c'est-à-dire que le top 1%, la part du top 1%, vous avez le top 1%, c'est les petits carrés, et, là, et ça c'est le top 0,1%, vous voyez, tout en haut de la distribution. Et vous voyez que, eh bien, ça augmente également dans les années 80, assez fortement, la part du top 0,1% ou la part du top 1%, après avoir en fait légèrement baissé avant. Voyez, et donc vous avez à nouveau cette tendance, voyez. Donc ça remet, une fois qu'on voit tout ça, on se dit Kuznets, qu'est-ce qu'il en reste, quoi. Et ben on va voir que Kuznets, on peut le sauver quand même. Voyez, il est pas, c'est intéressant. On croit que les gens souvent ils sont morts, mais ils sont pas morts, voyez. Voilà. Alors là c'est pareil, la même genre de choses. Voyez, en Grande-Bretagne, le top 1%, le top 0,1, donc il baissait jusque dans la fin des années 70, et puis depuis les années 80, ça remonte, d'accord. Et donc voilà, maintenant j'ai mis ensemble le US, États-Unis et Royaume-Uni, et c'est donc des évolutions similaires, voilà, toujours venant de Piketty, Saez, Atkinson. Hein. Alors il y a également quelque chose d'intéressant dans les salaires, c'est-à-dire qu'on peut regarder, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi qu'il y a une polarisation qui a augmenté, c'est-à-dire qu'on peut regarder le tiers inférieur qui est le bleu, le tiers supérieur qui est le vert et le tiers médian. Et en gros, on peut voir, si vous voulez, que en termes de distribution des salaires, et on voit que c'est le tiers médian qui prend beaucoup. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous voyez, ça a augmenté la part du tiers inférieur, mais c'est le tiers médian qui a pris tout sur la figure, vous voyez. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on verra ça, ça a été un peu, avec notamment la révolution des technologies d'information et communication, c'est beaucoup les jobs de contremaître qui ont disparu, vous voyez, les gens qui étaient au milieu de la hiérarchie. C'est ces gens-là qui en ont pris plein la figure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens en bas, au contraire, ça permettait de déléguer davantage aux gens en bas ou de concentrer davantage en haut. Mais on n'avait plus besoin de contremaître. Quand on a des caméras, on n'a plus besoin de contremaître dans les usines, autant moins qu'avant. On peut tout surveiller d'en haut, etc. Et donc ça, on le voit, c'est très intéressant parce qu'on le voit au niveau des occupations dans l'entreprise, mais on le voit aussi au niveau de la distribution des salaires. Et c'est très intéressant de pouvoir relier l'entreprise et la distribution des salaires. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans. J'ai des collègues, Nicolas Bloom, qui est à Stanford, et John Van Rynen, qui est à la London School of Economics, qui travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus, c'est-à-dire sur le lien entre la distribution que vous observez des salaires ou des revenus globalement et l'évolution des entreprises, de l'organisation des entreprises. Elles se sont aplaties, c'est-à-dire avant, il y avait des niveaux médians, et maintenant, ça s'est aplati beaucoup. Vous voyez, vous avez les gens intermédiaires, sont beaucoup disparus. Si vous lisez l'établi de Robert Linhart, vous voyez qu'il y a beaucoup de contremaîtres. Si maintenant, vous allez dans une... Je ne sais plus, on ne fait plus de deux chevaux maintenant, mais si on a une visite de voiture, il n'y en a plus, mais enfin, s'il y en a quelques-unes, et on voit comment ça marche quand même très différemment de ce qui s'était sous Robert Linhart. D'accord. Donc voilà. Bon, voilà, c'est peut-être intéressant. Alors, il y a un autre indice qui est important. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs mesures de l'inégalité. Il y a le top 1%. Il y en a une autre qui sont des mesures plus globales, comme le Gini ou le ratio 90-10, etc. Ça, c'est des mesures globales d'inégalité à un moment donné. Et il y en a un troisième qui est la mobilité sociale. Et ça, c'est très important, parce que la mobilité sociale, c'est une mesure plus dynamique de l'inégalité. Parce que ce qui est important, c'est pas seulement de savoir, à un moment donné, qui gagne plus et qui gagne moins. Vous comprenez que c'est pas la même chose. Mettons que vous ayez un pays 1 et un pays 2. Dans le pays 1, on voit une distribution assez inégale, mais en fait, il y a une grande mobilité sociale, c'est-à-dire que même si moi je gagne pas beaucoup, mon enfant peut gagner beaucoup plus, ou si je gagne pas beaucoup, disons à une époque de ma vie, je peux gagner beaucoup plus tard, vous voyez. Donc il peut y avoir une grande mobilité. Et dans le pays numéro 2, il n'y a pas de mobilité, c'est-à-dire que une fois pour toutes, mon salaire il va pas bouger et mes enfants sont comme moi. Vous comprenez que ça n'a pas la même conséquence, l'inégalité dans l'un et dans l'autre, vous voyez. C'est-à-dire, ça ne fait pas pour justifier l'inégalité, mais c'est-à-dire qu'effectivement, l'inégalité est particulièrement insupportable quand il n'y a pas de mobilité sociale. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est tolérable à tous les niveaux autrement, mais on ne la regarde pas de la même manière selon qui a ou qui n'a pas de mobilité sociale, d'accord. Alors, il y a différentes mesures de mesurer la mobilité sociale. Il y a eu des sociologues comme Goldhorf, par exemple, ou d'autres qui ont travaillé sur... C'est un sujet passionnant, la mobilité. Je pourrais faire tout un cours, et je me demande si je ne vais pas faire ça une année, sur le thème de la mobilité sociale, Par exemple, j'avais un collègue, quand j'étais à Nuffield College, à Oxford, John Goldorp. Goldorp, il a fait des études passionnantes parce qu'il regardait l'occupation des parents et l'occupation des enfants. Et il essayait de voir si l'occupation des enfants et des parents était très différente ou pas. Donc, il mesurait la mobilité par l'occupation. Il comparait. Alors, évidemment, c'est pas toujours très facile parce que les occupations changent aussi au cours du temps. Il y a des métiers qui disparaissent. Mais il mesurait, disons, par l'occupation. Il y a un autre moyen de mesurer, c'est par le revenu. Et là, par le revenu, on regarde en gros, eh bien, le revenu des parents et le revenu des enfants. Alors, on peut faire ça dans différents pays. Et il y a une chose très intéressante, c'est que la mobilité, eh bien, on la mesure par le fait que quand il y a moins de mobilité, c'est que le revenu des parents, des enfants dépend davantage des revenus des parents. Ça, on veut dire qu'il y a peu de mobilité, d'accord ? Si par contre, le revenu des enfants n'est pas très corrélé au revenu des parents, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mobilité, d'accord ? Eh bien, on voit d'abord qu'il y a ce qu'on appelle la Great Gatsby Curve. Vous voyez, Gatsby le magnifique, la courbe de Gatsby le magnifique. Eh bien, la courbe de Gatsby le magnifique, elle vous dit que quand vous êtes dans des endroits où vous avez moins de mobilité, vous avez plus d'inégalités de revenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un lien entre la mesure, des mesures globales d'inégalité, comme le Gini, je mets Gini ou le 90-10, d'accord, et mobilité sociale. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a un Gini plus grand, ça veut dire mobilité sociale plus faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation, en général, entre la mobilité sociale, qui est une mesure dynamique, et cette mesure globale d'inégalité. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant. Donc, en général, on veut quand même qu'il y ait une mobilité sociale, et on ne veut pas donc... Et donc, quand on voit qu'il y a des mesures globales d'inégalité très fortes, c'est quand même, on se dit qu'il n'y a pas assez de mobilité sociale. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut regarder, c'est des indicateurs qu'il faut regarder, vous voyez ? Le Gini ou la mobilité sociale. Moi, c'est ceux qui me tiennent à cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'on va voir tout à l'heure que le top 1%, c'est encore une autre histoire. Vous voyez ? Et donc, il y a des débats en France, pour que vous sachiez un petit peu, entre moi et Piketty, ou moi ou d'autres, où je dis... Il faut se soucier du top 1%, mais peut-être pas d'être obsédé comme tu l'es sur le top 1%. À partir du moment où la mobilité sociale ne réduit pas et le Gini n'augmente pas, on est déjà pas mal, tu vois, je veux dire, c'est déjà bien, quoi. Et donc, le top 1, il y a des sources, des bonnes et des mauvaises sources de top 1, il faut les regarder en détail. Alors que une autre approche consistera à dire tout ce qui est top 1%, je tape dessus, sans discrimination. Et là, je dis attention parce qu'il peut y avoir des problèmes. Alors, on va y arriver à ça, d'accord ? Mais petit à petit, je mets des petites graines en vous pour que ça, vous voyez, pour que ça, comme ça, vous dites, oulala, mais qu'est-ce qu'il va me raconter ? Il me dit des choses très choquantes. Mais c'est ça que je veux vous choquer, justement. Voilà. Donc ça, c'est la Great Gatsby. Alors ça, c'était fait aux États-Unis. Alors, je vais juste vous dire deux mots comment ça a été fait aux États-Unis. C'est toujours le même Saez, mais Saez s'est mis avec d'autres gens, un auteur qui s'appelle Chetty, et avec des co-auteurs, d'accord ? Mais c'est vraiment, lui est à Berkeley, lui, il était à Harvard, il est parti à Stanford, et puis, etc. Alors, comment ça se passe ? Alors, comment on mesure la mobilité sociale ? Ils ont été regardés, c'est ça qui est formidable, aux États-Unis, mais alors avec un microscope, ils ont été municipalité par municipalité. Et donc, en fait, ils ont été regardés dans chaque municipalité, le revenu des parents, ils ont pu voir les individus, et ils ont vu les revenus des individus en 96-2000, quand l'enfant qu'ils vont regarder après avait 15 ans. Donc, ils regardent le revenu des parents quand l'enfant a 15 ans. Et puis, alors après, ils vont en 99-2000, quand l'enfant a 30 ans, et ils regardent le revenu de l'enfant. Et c'est en regardant la corrélation entre le revenu de l'enfant et le revenu des parents qu'ils regardent la mobilité sociale. Mais vous voyez, ils comparent entre différentes municipalités aux États-Unis. D'accord ? Ils regardent là où ça... Alors, c'est très intéressant... Parce que d'abord, ils voient que la mobilité sociale est la plus grande. La mobilité sociale, par exemple, c'est la probabilité que l'enfant ait un revenu dans le quintile supérieur de la distribution des revenus quand les parents, eux, viennent du quintile inférieur, par exemple. Vous voyez, il y a différentes mesures. Eh bien, ils voient que la mobilité est notamment, évidemment, vous ne serez pas très surpris, elle est moins forte là où la fraction de African American est plus grande. D'accord ? Ça vous surprendra pas, quoi. Mississippi, Alabama, tout ça, c'est pas génial pour la mobilité sociale. Vous voyez ? Donc déjà, c'est intéressant. On retrouve un peu les suspects, quoi. Hein, vous auriez soupçonné une distribution comme ça. Donc, c'est déjà intéressant. C'est intéressant de voir ça. Hein. Alors ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est que, on voit également, c'est que la mobilité est plus grande dans des endroits qui croissent plus vite. Et ça, on va regarder, c'est un thème que je vais reprendre tout à l'heure, mais c'est une autre petite graine que je veux mettre en vous. parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Si moi, qu'est-ce que je veux? Je veux de la croissance et je veux de l'intégration sociale. Eh bien, ça me rend optimiste. Je me dis quand même, dans les endroits qui croissent plus vite aux États-Unis, c'est quand même là qu'il y a le plus de mobilité sociale. En Californie et dans le Massachusetts et dans le Connecticut, eh bien, la croissance est plus forte que dans l'Alabama et la mobilité sociale est également plus forte. C'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre but, c'est ce que j'appelle la croissance inclusive, on va y revenir, c'est-à-dire à la fois de la croissance, mais qui inclut tout le monde, ben on se dit, il y a de l'espoir quand même. Hein. Je ne dis pas à nouveau qu'on ne me fasse pas dire que je suis pour le modèle américain. J'ai pris des données américaines, parce que cette étude a été faite par des non-américains, mais mon modèle n'est absolument pas le modèle américain. Parce que j'avais vu un article dans Le Monde qui me faisait dire que moi, j'étais le genre de... C'est, quand on monte des données d'un pays, ce n'est pas parce qu'on épouse ce qui se passe dans ce pays. D'accord? Mais c'est intéressant parce que l'étude de mobilité sociale, maintenant, on essaie d'imiter, on fait des études françaises là-dessus. Alors, troisième chose, c'est la fameuse Gatsby le Magnifique. Ils reproduisent la même courbe, seulement au lieu que ça soit une comparaison entre pays, c'est une comparaison entre municipalités américaines. C'est-à-dire qu'on voit que les municipalités américaines où la mobilité sociale sont les plus grandes sont également celles où en fait, eh bien, la mesure d'inégalité est la plus faible. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on voit à nouveau qu'il y a un lien, si vous voulez, que davantage ce lien dont j'ai parlé, qui est vrai quand on fait des comparaisons internationales, elle reste vraie quand on fait des comparaisons entre municipalités américaines. Vous voyez, ça serait vrai également en France. Et donc, déjà, quand vous avez des relations, je vous ai toujours dit, j'ai des relations assez semblables entre pays et à un niveau plus micro, et que je trouve la même relation, je me dis, il y a quand même quelque chose, d'accord? Donc ça, c'est quand même à nouveau intéressant. Donc, voilà. Alors, l'autre chose qui est aussi très amusante, quand même, c'est que, regardez, là, je fais le lien entre la part du revenu des top 1% et la mobilité sociale. Et vous voyez que la relation, elle est très légèrement croissante. C'est-à-dire que dans les endroits aux États-Unis où le top 1% gagne le plus, c'est aussi les endroits où, il n'y a pas de causalité, mais c'est aussi les endroits où la mobilité sociale est la plus grande. Vous voyez, ça ne voyait plus vous dire que c'est le contraire. C'est là que je commence à discuter avec Piketty ou avec d'autres. C'est que je dis, mon coco, il faut que tu regardes ça, fait par ton copain Saez quand même. C'est pas fait par ton ennemi intime, c'est par ton meilleur ami, Emmanuel Saez. Voilà ce qu'il fait. Donc c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que les endroits aux États-Unis où le top 1% gagne le plus, c'est les endroits aussi où il y a le plus de mobilité sociale. Par exemple, le Massachusetts, la Californie, le Connecticut, il y a pas mal de mobilité sociale. Et la part du top 1% est plus élevée. Et l'innovation est plus élevée. Tandis que vous allez regarder Alabama, Mississippi, etc., la mobilité sociale est faible, mais la part du top 1% est quand même plus faible, parce qu'il y a moins d'innovation, en fait. Et on va commencer à avoir une petite graine, et dire, ah, tiens, mais l'innovation a peut-être quelque chose à voir avec ça, et je vais y revenir tout à l'heure, d'accord? Là, je regarde la segregation of poverty, et à nouveau, là, plus il y a de la mobilité sociale, moins les pauvres sont exclus, quoi. Donc, c'est assez clair qu'il y a le lien aussi très fort entre mobilité sociale et trappe de pauvreté. Moins il y a de trappe de pauvreté, plus vous avez de la mobilité sociale. Alors, on a vu que d'abord, il y a différentes façons de mesurer l'inégalité. Il y a des mesures d'inégalité globale, comme le Gini, le 90-10, médian, moins salaire moyen, moins salaire médian. Ça, c'est les mesures globales d'inégalité. Puis il y a le top 1%, le top 0,1%, des mesures d'inégalité extrême. Et puis il y a la mobilité sociale. Et on a vu un peu les relations entre ces mesures. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, surtout, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80. Pourquoi Kuznets, ça n'a pas fonctionné depuis ce moment-là. Alors, déjà, je voudrais expliquer l'augmentation des inégalités at large, c'est-à-dire des mesures globales d'inégalité. L'augmentation du Gini, l'augmentation du ratio de salaire des gens éduqués sur les salaires de gens pas éduqués, etc. D'accord? Et là, je vais vous montrer un diagramme. Alors, ce diagramme, c'est aux États-Unis, c'est l'évolution aux États-Unis du ratio du salaire moyen des gens qui ont un diplôme universitaire sur ceux qui n'ont qu'un diplôme du secondaire. D'accord? C'est une mesure d'inégalité. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en gros, bon, ça monte, ça descend, mais en gros, si je vous devais faire une ligne, elle est assez plate. Et là, ça baisse à partir du début des années 70 et ça monte très très fort au milieu des années 80. C'est quand même intéressant. Il y a cette baisse très forte, vous voyez, pendant les années 70 jusqu'à la fin des années 70, et puis ce ratio augmente très fort. L'autre courbe, c'est l'offre relative de travailleurs qui ont des degrés d'éducation supérieure par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et là, vous voyez que ça augmente régulièrement parce qu'il y a eu, eh bien, de plus en plus de gens ont été à l'université et donc il y a une proportion toujours croissante d'Américains qui ont des degrés universitaires, d'accord ? Pas croissante assez vite d'ailleurs, mais bon. Donc on veut comprendre cette partie décroissante et cette partie croissante, notamment cette partie croissante. Et donc là, je vais revenir là-dessus. Et donc, on veut comprendre ça, quoi, en gros. Parce que jusque-là, bon, on peut dire qu'Usenet, là, en gros, il n'y a pas vraiment de... C'est peut-être ça a baissé, c'était plus ou moins constant, et là, ça rebaisse. Mais c'est vraiment là que ça remonte, et on veut comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus curieux, c'est une énigme, ça, parce que vous avez l'augmentation... Normalement, quand vous avez plus d'offres de gens qui ont des qualifications, ça veut dire que les gens qui ont des qualifications deviennent un bien moins rare. Donc, normalement, le salaire relatif de ces gens par rapport aux autres aurait dû réduire. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est le contraire qui se passe. C'est quand même curieux. C'est en soi une énigme. Comment se fait-il qu'alors que le ratio de gens qualifiés sur gens pas qualifiés augmente, le salaire relatif des gens qualifiés augmente aussi? Normalement, c'est l'offre et la demande. Donc, normalement, si j'ai beaucoup, beaucoup de gens, de plus en plus de gens avec des degrés universitaires, leur salaire relatif devrait diminuer par rapport aux autres, puisque ça, ils deviennent moins, ils sont moins rares.
Le Collège de France et France Culture vous présente Philippe Aguillon, Théorie et politique de la croissance, aujourd'hui, inégalité et croissance.
Alors les explications, il y en a plusieurs. Et la première explication, c'est le commerce international. C'est-à-dire de dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Eh bien, dans les années 80, il y a eu la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de tarifs douaniers entre pays et ben qui ont été éliminés ou réduits. Et donc ça veut dire qu'on pouvait importer plus facilement de pays émergents, notamment à l'époque on importait beaucoup eh bien de la Corée, de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour et puis la Chine est devenue un acteur important. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez la mondialisation, eh bien ça devient facile d'importer des biens de ces pays-là. Eh bien dans la théorie du commerce international, il y a une théorie, et la théorie, en gros, c'est la théorie de Heckscher-Ohlin. Voilà. Alors, c'est deux économistes. Hein. Et la théorie de Heckscher-Ohlin, c'est la chose suivante. C'est de dire, voilà, chaque pays, quand on ouvre au commerce international, chaque pays se spécialise dans la production des biens qui utilisent de façon intensive les facteurs dont il est bien pourvu. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi j'ai beaucoup de charbon, je vais me spécialiser dans des biens, dans la production de biens qui utilisent, où la production utilise du charbon. Vous voyez? Si j'ai beaucoup de travailleurs qualifiés, je vais me spécialiser dans la production de biens, dont la production, utilise beaucoup de travail qualifié. Vous comprenez? Donc, vous voyez, imaginez que vous avez, la France, hein, qui a beaucoup de travailleurs qualifiés et qui ouvre son commerce avec Taïwan, qui a moins de travailleurs qualifiés, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Taïwan va se spécialiser plus que jamais dans la production de biens qui utilisent du travail non qualifié pour la production de ces biens, alors que la France va plutôt se spécialiser dans la production de biens dont la production requiert surtout du travail qualifié. Qu'est-ce qui va du coup se passer? Eh bien, ça veut dire qu'en France, la demande pour le travail qualifié va augmenter, puisque je vais me spécialiser dans la production de biens qui utilisent du travail qualifié. Alors que la demande de travail non qualifié en France va réduire, puisque je vais importer ces biens de Taïwan. Et donc ça, vous voyez tout de suite que ça va augmenter la demande relative pour du travail qualifié en France, et donc là, ça va augmenter le salaire relatif du travail. Voilà, donc ça, c'était l'explication du commerce. Voilà. Mais il y a des problèmes avec cette explication. Et les problèmes avec cette explication sont de différents types de problèmes. Il y a un problème d'abord, c'était que en 1980, le commerce des États-Unis avec les pays en développement, eh bien, ça représente moins de 2% du PIB américain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se dit quand même, c'est comment un truc qui est si petit? Alors maintenant, ça a changé, hein. Mais à l'époque, c'était tout petit. Ça, c'est un argument que Krugman a mis en avant. D'accord? Et il dit, comment est-ce possible que quelque chose, vous voyez, de si petit puisse avoir un effet aussi gros sur l'inégalité au niveau des États-Unis tout entière? Vous voyez, donc ça, c'est quand même un problème. Donc ça, c'est un argument que Krugman avait mis en avant. Donc ça, c'est le premier problème, d'accord? Il y a d'autres problèmes. C'est que, en fait, il y a une autre objection à cette théorie. c'est la chose suivante. C'est que si c'était vraiment cette théorie du commerce, on aurait dû voir que le travail se réalloue, voyez, que le travail non qualifié notamment quitte les secteurs exposés à la concurrence des pays émergents et aille se réallouer aux secteurs qui ne le sont pas. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'on dirait, eh bien, les secteurs exposés à la concurrence avec Taïwan produisent moins qu'avant. Hein, bah, par exemple, les vêtements, on les fait venir de Taïwan, on ne les fait plus nous-mêmes. Mais par contre, comme ce travail est devenu moins cher, on le réalloue, eh bien, aux secteurs qui produisent plus, qui sont des secteurs qui utilisent beaucoup de moins d'œuvre et qualifiés, et qui sont, eux, moins exposés à la concurrence des pays étrangers. Donc, on aurait vu essentiellement qu'il y a un mouvement, une réallocation, eh bien, entre secteurs, voyez, des secteurs soumis à la concurrence vers les autres. Or, qu'est-ce qu'on a observé? Que dans tous les secteurs, qu'ils soient ou non soumis à la concurrence de Taïwan, ils ont augmenté leur demande relative de travail qualifié. Vous voyez, je veux dire, au lieu que ça se passe entre secteurs, ça s'est passé intra-secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque secteur s'est mis à demander plus de travail. Donc ça ne va pas avec la théorie du commerce. Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose que la théorie du commerce ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, donc le deuxième argument, c'est que la réallocation est intra-secteur. La réallocation du travail non qualifié dans les pays développés, aux États-Unis, hein, mettons, hein, a été intra-sectorielle, pas inter-sectorielle. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et on a vu que c'était très lié à l'innovation. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en fait, c'était des secteurs qui faisaient davantage de recherche-développement et des secteurs qui installaient davantage des ordinateurs et que ça se passait surtout dans ces secteurs-là. Donc on s'est dit, ça a à voir avec le changement technique, vous voyez? Et donc, voilà. Et on s'est dit, tiens, ça a à voir avec le changement technique. Donc c'est autre chose que le commerce, quoi. Mais on va revenir là-dessus. Donc ça va pas avec le commerce. Également, si ça c'était vrai, on aurait dû observer une réduction des inégalités de salaire dans les pays en développement. On aurait dû observer que comme les pays en développement produisent davantage en utilisant la main-d'œuvre pas qualifiée, eh bien la demande pour le travail non qualifié dans les pays en développement aurait augmenté. Et donc vous auriez dû observer que les inégalités de salaire se réduisent dans les pays en développement. C'est pas vrai, elles ne se sont pas réduites, elles se sont également augmentées. Vous voyez, donc il y a eu quelque chose que la théorie du commerce ne vous donne pas. C'est intéressant simplement pour raisonner, vous voyez ce que je veux dire. Et donc la théorie du commerce, alors elle joue un rôle, mais ça ne peut pas être l'explication principale. Donc la théorie du commerce, ça ne suffit pas pour expliquer l'évolution de l'inégalité de salaire depuis les années 80. Donc on en a cherché d'autres. Une autre, ça a été la désyndicalisation. Alors la désyndicalisation, qu'est-ce que c'était? Eh bien la désyndicalisation, c'est donc une autre théorie. En gros, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. On dit, voilà, Reagan-Thatcher, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec Reagan-Thatcher? Eh bien, l'influence des syndicats, et ça c'est vrai, pendant les années Reagan aux États-Unis et les années Thatcher en Grande-Bretagne, l'influence des syndicats baisse considérablement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le taux de syndicalisation aux États-Unis baisse de 25% à 16%. Vous vous rendez compte, c'est énorme, entre 79 et 85. C'est très rapide, ça, vous vous rendez compte? C'est énorme, 10 points de moins de syndicalisation. Vous voyez, c'est une baisse terrible de la syndicalisation. Et vous avez une évolution semblable en Grande-Bretagne, d'accord? Et ce qui s'est passé également, c'est que parallèlement à ça, le salaire minimum a perdu aux États-Unis 30% en valeur réelle, 30% de sa valeur pendant les années 80. 30% de son pouvoir d'achat, c'est ça que je veux dire, hein. Il y a l'inflation, elle continue, mais le salaire n'est pas ajusté. C'est-à-dire qu'on l'augmente jamais en nominal pendant les années 80. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, c'est très violent, vous voyez. Donc on peut dire, ben voilà, en gros, vous cherchez une explication à l'augmentation de salaire, ben là voilà l'explication. Évidemment, quand vous avez Reagan, il y a eu la grève, vous savez, la grève des, je crois que c'est pas la grève des aiguillères ou des contrôleurs aériens, et là ça avait été sa grande grève. Madame Thatcher, ça a été les mineurs, ils ont eu des études très 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 intransigeantes, et ils ont en fait cassé les syndicats. Et vous voyez également que la valeur du salaire minimum également en Grande-Bretagne a beaucoup baissé pendant les années 80. Donc vous dites avec ça, eh ben voilà mon explication. Pourquoi je vais chercher des choses compliquées quand l'explication elle est très très simple? Eh bien c'est Reagan Thatcher, il tape sur les syndicats. Mais c'est intéressant parce que c'est pas si simple que ça. Les syndicats, ils ont deux effets sur les salaires. Il y a le salaire minimum évidemment, mais les syndicats plus généralement, ils ont deux effets. D'abord, il y a eu des études, notamment par un collègue d'Harvard qui s'appelait Freeman, qui s'appelle « What do unions do ?»« Qu'est-ce que les syndicats font ?» et où Freeman a montré que les syndicats compriment les salaires, parce qu'en général, les syndicats négocient les grilles, et ça arrive, et ça revient sous l'influence des syndicats, c'est de comprimer les salaires entre syndiqués. Mais ça peut augmenter les inégalités de salaire entre syndiqués et non syndiqués. Donc c'est pas évident, a priori, que la désyndicalisation réduise les augmente les inégalités de salaire, parce que peut-être qu'elle les augmente au sein de gens qui étaient syndiqués avant, mais peut-être pas forcément entre des gens qui étaient avant syndiqués et des gens qui étaient avant pas syndiqués. Donc c'est une dynamique qui est un peu complexe, si vous voulez. Mais si vous voulez, le truc important, c'est de se dire, bon, il y a cet aspect-là. Certainement qu'à nouveau, la syndicalisation a pu jouer un rôle. Mais est-ce que ça peut être l'explication principale du phénomène que j'essaye de comprendre? Et là, il y a deux questions. Eh bien, la question, c'est la suivante, c'est le timing. En Grande-Bretagne, l'inégalité de salaire commence avant Madame Thatcher. C'est ça qui est remarquable. Madame Thatcher commence à faire ses politiques en 80, mais en fait, les inégalités de salaire en Grande-Bretagne se mettent à augmenter avant que Madame Thatcher fasse la grève des mineurs, etc. Donc là, on dit, si c'est Madame Thatcher, comment est-ce possible que l'inégalité augmente avant? Et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, la désyndicalisation commence avant Monsieur Reagan. Donc ça peut pas être juste Monsieur Reagan non plus. Et donc, si vous voulez, le timing n'est pas bon. Vous voyez, c'est sans doute un élément renforçant, comme le commerce est un élément renforçant. Mais ça ne peut pas être l'explication de base. Vous voyez, on est dans une enquête, là. Hein, on est dans une enquête, on cherche, et ça ne peut pas être l'élément primordial. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et le autre chose, ça a un nom horrible que vous allez détester. C'est le... Alors, je ne sais pas le dire bien en français, parce que je ne sais pas comment, mais je vais le dire en français quand même. C'est le changement technique biaisé. Alors, en anglais, ça se dit comme ça. L'explication magique, c'est celle-ci. Skill bias, technical change. Skill bias, c'est-à-dire biaisé en faveur des gens qui ont des qualifications. Skill bias, technical change. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Eh bien, il y a eu une accélération dans le skill bias, technical change. C'est-à-dire que dans les années 80, pour des raisons qu'on va essayer de comprendre, eh bien, ça y a eu, non seulement il y a eu de l'innovation, de changement technique, mais qui a favorisé les gens qualifiés. On s'est mis à faire des meilleures machines qui travaillent avec des gens qualifiés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le tout, c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette accélération. Et l'étude que je vous avais mentionnée, qui montrait que la réallocation était surtout intrasectorielle plus qu'intersectorielle, ces mêmes personnes montrent que 70% de la réallocation, eh bien, est faite, en fait, que 70%, en fait, est within industry et que c'est lié à la recherche-développement et à l'adoption d'ordinateurs et de la révolution d'éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, toutes les entreprises se mettent à faire la révolution technologique. Donc, en gros, l'explication la plus plausible, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une accélération du changement technique biaisé vers les gens qualifiés. Et le tout est de savoir pourquoi il y a eu cette accélération. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y a eu cette accélération, notamment Gordon, le même Gordon qui parle maintenant de stagnation séculaire, mais il y en a eu d'autres qui ont montré qu'il y avait eu en effet une accélération du progrès technique biaisé vers les gens qualifiés. Et la question est de savoir pourquoi. Et là, il y a, en gros, une explication qui est la plus plausible, c'est la révolution des TIC, la révolution des technologies de l'information et des télécommunications. Eh ben, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est la chose suivante. Quand vous avez une révolution technologique, eh bien, au début, il se passe, là, on est en 1980, au début, il se passe assez peu de choses. Peu de gens adoptent, voyez? Donc, quand vous avez une révolution, par exemple, la machine à vapeur, pendant longtemps, la machine à vapeur n'est pas utilisée. Et puis, quelques personnes essaient de l'expérimenter à petite échelle, et tout d'un coup, c'est comme une maladie, ça prend tout le monde, voyez ce que je veux dire? Et il y a une phase d'accélération dans la diffusion de la technologie. Et c'est vrai dans toutes les grandes révolutions technologiques. Celui qui a bien montré ça, c'est un historien de la technologie qui s'appelle Paul David, qui est à Stanford, qui est à la retraite maintenant, mais qui est un homme qui va toujours dans son bureau, et vous pouvez toujours parler avec lui, c'est un homme passionnant. Paul David a montré exactement comment la diffusion de n'importe quelle c'est ce qu'on appelle des technologies génériques. Vous savez, c'est des technologies que vous utilisez dans tous les secteurs de l'économie. La machine à vapeur a été une technologie générique. L'électricité a été une technologie générique. Les ordinateurs, c'est une technologie générique. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, c'est comme la diffusion d'une maladie. Ça a une forme logistique. C'est-à-dire qu'au début, il y en a peu, et après, il y a un effet d'emballement et il y a une accélération dans la diffusion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la même chose là. Les ordinateurs, tout d'un coup, dans les années 80, eh bien, tout le monde s'est mis à vouloir informatiser. Et le gros du boulot s'est fait entre 80 et 2000, quoi. Et là, ça a été l'emballement. Et dans les périodes où vous installez les ordinateurs, vous avez besoin de gens qualifiés. Vous comprenez? C'est vrai que l'offre de travail qualifié continue d'augmenter, mais la demande, elle se met à exploser pendant cette phase d'accélération. Et c'est pour ça que le salaire a augmenté. En gros, c'est ça l'explication la plus plausible. C'est-à-dire de dire, ben voilà, on a voulu, en fait, eh ben, il y a eu la révolution de l'informatique et ça a favorisé le travail qualifié. Il y a une explication complémentaire d'un collègue qui s'appelle Acemoglu, dont j'avais parlé à propos des institutions, mais là c'est un autre travail qu'il a fait. Lui dit la chose suivante, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez me dire, mais tout ça c'est bien gentil, mais pourquoi les salaires ont d'abord diminué là? Pourquoi ça a diminué avant de repartir? Vous voyez quand même, ça on va bien l'expliquer, ou ça, pourquoi il y a cette baisse là? Et lui, son explication, elle va dans le sens suivant, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe en 1970? Qui arrive sur le marché du travail? Le baby-boom, les enfants de l'après-guerre. Hein, vous savez qu'après, en 45, on s'est mis à faire beaucoup, beaucoup d'enfants. Hein. Ces enfants arrivent sur le marché du travail en 70-71. Mais ces enfants-là sont beaucoup plus qualifiés que leurs aînés. Pourquoi? Parce que d'abord, la guerre a un effet socialisateur. Pendant la guerre, on se dit, tiens, les services publics, c'est quand même utile. Donc, on scolarise davantage. Et puis, ce qui s'est passé aux États-Unis également, c'est qu'on s'est dit, quand même, il y a eu les vétérans, ils en ont bavé. La moindre chose qu'on puisse faire, c'est les enfants, on leur offre l'éducation gratuite. Et donc, il y a eu beaucoup d'enfants de vétérans aux États-Unis qui ont eu accès à l'université gratuitement. Donc, ils ont été à l'université. Donc, cette génération du baby-boom est une génération beaucoup plus éduquée que leurs pères, que leurs parents. Et donc, ils arrivent en masse sur le marché du travail. Alors, évidemment, quand ils arrivent, évidemment, alors là, l'offre relative de travail qualifié, elle augmente très vite. Et donc là, il y a l'effet que je vous disais tout à l'heure, la rareté relative du travail qualifié diminue. Et donc, le salaire relatif des gens qualifiés baisse. Mais ensuite, ça repart. Alors, ça repart peut-être parce que là, se passe la révolution d'éthique. Mais il se peut aussi que comme on a tous ces gens qualifiés, on se dit tout d'un coup, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'on a tous ces gens qualifiés. Et les, hop, on y va, quoi. Ils coûtent pas cher. On y va. Et on lance la révolution. Moi, je crois que les deux explications sont complémentaires. Mais ce qui est intéressant avec cette explication, c'est-à-dire la combinaison de la révolution d'éthique et de l'arrivée massive de la génération du baby boom, vous explique cette partie-là et cette partie-là. Et donc, voilà un peu, en gros, où on en est dans l'explication. On dit que voilà ce qui s'est passé pour expliquer l'inégalité au sens large. Vous voyez? Alors, ça veut pas dire que la désyndicalisation a joué. Elle a peut-être joué en parallèle parce que, à mesure que les inégalités augmentent, vous savez qu'on est syndiqué, on pense que notre sort est joint. Et quand vous avez des très bonnes offres ailleurs et moi des moins bonnes, peut-être qu'on ne veut plus être dans le même syndicat. Donc, il y a un lien entre la désyndicalisation et ce mouvement-là. Et la désyndicalisation a été un élément aggravant, si vous voulez. D'accord? Mais en gros, c'est ça qu'on se dit. On se dit maintenant, le commerce, c'est pas qu'il n'ait pas joué de rôle, mais c'est pas l'élément principal. La désyndicalisation, c'est un élément aggravant, mais c'est pas l'élément principal. Il y a eu cette accélération dans le changement technique en direction des gens qualifiés. Alors, parce qu'il y a eu cette coïncidence de la révolution des technologies, de l'information et de la communication, et de cette arrivée sur le marché du travail de cette masse de gens plus qualifiés que leurs aînés. Voilà. Donc ça, c'est un peu, en gros, l'explication qu'on a. Mais il y en a une dernière qui est complémentaire également. C'est que les frais universitaires, eh bien, ont augmenté beaucoup plus vite qu'avant aux États-Unis. Et ça ralentit la croissance de l'offre relative de gens qualifiés. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un mouvement. C'est vrai que elle a continué à augmenter, mais moins vite qu'avant, parce que les frais universitaires sont énormes aux États-Unis, vous voyez? Ils augmentent très très vite, quoi. Et donc ça décourage. Et ça, c'est un des gros problèmes du système américain. Et donc, évidemment, les gens s'endettent. D'abord, ça crée de l'endettement, qui a conduit à la crise des subprimes, qui a alimenté la crise des subprimes. Mais en plus, ça fait que ça décourage les gens de suivre une éducation supérieure. C'est un des gros problèmes qu'ont les États-Unis. C'est ce coût qui est en train de flamber de l'éducation supérieure. Alors, évidemment, ça, c'est un élément aggravant également pour expliquer l'augmentation des inégalités de salaire aux États-Unis, qu'il y a des effets dans différentes directions. Alors, il y a eu des études, évidemment. Moi, j'ai fait des travaux, d'autres aussi, sur chacun de ces effets-là. Il y a eu des travaux d'Alesina et d'autres sur l'inégalité comme source de violence. Rodrigue Alesina. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'imperfection de marché de crédit, rendement individuel décroissant. Il y a eu, voilà, tout ça a donné lieu à beaucoup de travaux. Je vous les résume là en 3 minutes parce que j'ai pas le temps. Mais ça, il y a toute une littérature sur les effets contradictoires de l'inégalité sur la croissance. Et d'ailleurs, les études empiriques, Banerjee, Duflot et d'autres, ne font pas apparaître d'effets systématiques des inégalités sur la croissance. Évidemment, tout ça se mélange comme une espèce de grosse salade russe, et il se passe, et voilà, et on voit rien. Donc, si vous regardez les effets de l'inégalité au sens large sur la croissance, vous ne verrez rien. Donc, une approche beaucoup plus à mon avis, utile pour réconcilier croissance et maîtrise des inégalités, c'est de dire, ben voilà, quels sont les leviers de la croissance dans les pays avancés? Dans les pays avancés, eh bien, les leviers de croissance, on sait, différentes études l'ont montré, que c'est d'abord l'éducation et l'éducation supérieure. Ça, j'en ai parlé longuement la dernière fois. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire. J'ai parlé d'un marché de la concurrence. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ça, vous le savez pas maintenant. D'accord? Le marché du travail aussi, dynamique, c'est important. Si je veux une économie, on sait que l'économie de la croissance dans les pays avancés est basée sur l'innovation. L'innovation, c'est la destruction créatrice. Ça veut dire qu'il faut pouvoir facilement, embaucher et débaucher. Donc il faut un marché du travail qui permette cette flexibilité. Évidemment, il faut en même temps qu'il y ait sécurité des revenus et formation professionnelle, que nous n'avons pas vraiment chez nous. Bon, et puis il y a d'autres aspects, notamment la stabilisation macroéconomique, l'idée que le long du cycle économique, c'est important que les entreprises puissent maintenir leurs investissements innovants. Donc ça veut dire que ici on a beaucoup d'instabilité macroéconomique, ils ne pourront pas maintenir leurs investissements innovants. Voilà. Et puis il faut une politique fiscale incitative, c'est évident. Voilà, une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. Alors, il y a tout le débat sur le salaire minimum qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que le salaire minimum, le salaire minimum, il a été réduit et puis aux États-Unis, le salaire minimum, comme je vous l'ai dit, a baissé, notamment à la suite de la désyndicalisation, d'accord ? Et en Grande-Bretagne aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel niveau doit être le salaire minimum. Et là, il y a tout un débat. Et le débat est le suivant. Si vous partez d'une situation où vous n'avez pas de salaire minimum, eh bien, d'augmenter le salaire minimum, c'est une manière de réduire l'inégalité, certainement. Quand Obama dit « je dois augmenter le salaire minimum », c'est important. Quand Tony Blair, en Grande-Bretagne, a dit « je dois augmenter le salaire minimum », ça réduit l'inégalité dans ces pays, parce qu'il était à un niveau très bas. Il avait perdu énormément de pouvoir d'achat, sous Thatcher ou sous Reagan. Mais la question, c'est que si vous avez un salaire minimum qui augmente plus vite que la productivité, qu'il augmente trop vite, alors là, vous avez un problème, vous comprimez trop la distribution des salaires. Et vous avez un problème, c'est que ça peut décourager l'embauche. Et là, alors, l'inégalité se remet à augmenter. Donc, c'est très intéressant. Si je devais représenter en horizontal le salaire minimum et en vertical l'inégalité, eh bien, il y a un effet de courbe en nu à nouveau. Partant d'un salaire minimum très bas, de l'augmenter réduit les inégalités. Mais si vous augmentez trop haut, vous réaugmentez les inégalités parce que vous réduisez l'embauche et donc vous augmentez l'inégalité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'il faut compléter le salaire minimum par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté. Il y avait le RSA, la PPE ou ce qui en tient lieu. Et donc je crois qu'il faut plusieurs instruments de lutte contre la pauvreté. Le salaire minimum en est un, il est important. Il n'est pas question de le réduire, mais il est question de l'augmenter d'une manière modulée, qui dépend de la région, qui dépend du coût du logement, qui dépend de différents facteurs. En Suède, il est négocié par branche et par région. Je crois que c'était une bonne chose. Mais également de compléter par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté et qui soient vraiment effectifs pour ce faire. Donc là, il y a tout un débat sur le rôle du salaire minimum, qui est très important, mais comment le moduler, comment le renégocier, et est-ce qu'il doit être le seul instrument de lutte contre la pauvreté ou est-ce qu'il doit être complété par d'autres instruments qui agissent en complémentarité avec le salaire minimum. Donc là, il y a tout un débat très important, mais évidemment, ça m'amènerait trop loin. Je crois que je m'arrête là. Je veux quand même rendre justice à Kuznets pour la chose suivante. Monsieur Kuznets, vous vous souvenez, on avait dit, on pensait qu'il y avait la transition de l'économie rurale à l'économie urbaine, et on a dit, mais ça marche pas, puisque depuis les années 60-80, l'inégalité est repartie. Mais il y a une manière quand même de rendre justice à monsieur Kuznets. C'est-à-dire, monsieur Kuznets, le tort qu'il a eu, c'est de penser qu'il y avait une seule transition. C'est-à-dire, une fois pour toutes, on passe de l'économie rurale à l'économie urbaine. Mais la réponse à Kuznets, c'est de dire, cher monsieur, non. Chaque fois que vous aurez une nouvelle vague technologique, vous allez passer par un nouveau cycle de Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, vous n'avez pas tellement tort que ça. Simplement, au lieu que ce soit une fois pour toutes le passage de l'économie rurale à l'économie urbaine, chaque fois que vous aurez une transition, vous aurez le même genre de phénomène que vous aviez, que vous pressentiez avoir entre l'économie rurale. Donc, je peux sauver Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux dire que finalement, vous n'avez pas autant. Vous voyez, ne soyez pas désespérés, parce que vous n'avez pas raison de la manière où vous pensiez que vous aviez raison, mais vous avez raison quand même dans le fond. Voilà. Comme ça, tout le monde est content, et comme ça, c'est l'harmonie.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Philippe Aguillon, Inégalités et croissance, le 27 octobre 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Aguillon. Et je vous invite à vous rendre au Collège de France le 4 octobre, entre 14h et 16h, pour la nouvelle série de cours de Philippe Aguillon cette année. Il a publié sa leçon inaugurale au Collège de France sous le titre « Repenser la croissance économique » chez Fayard en 2016. Réalisation Anne Sécheret, mixage Manuel Couturier, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons l'économiste Philippe Aguillon pour la suite de son cours sur théorie et politique de la croissance. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.